Bonjour à tous. Ce sera donc la dernière conférence de presse de cette ministérielle. Donc, le secrétaire général va vous présenter son compte-rendu de la réunion en configuration Resolute Support. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Bonjour. Donc, nous venons de terminer une réunion de fond avec nos partenaires de Resolute Support, dont le ministre afghan des Affaires étrangères, M. Rabbani. Il y avait également les Nations unies, l'Union européenne, le Japon et la République de Corée. Ensemble, nous avons évalué la situation actuelle en Afghanistan et abordé l'avenir du soutien de l'OTAN. Les forces afghanes font preuve d'un réel courage, d'une détermination et d'un professionnalisme remarquable et ils bénéficient de notre formation, de nos conseils et de notre assistance. Mais l'Afghanistan se trouve toujours confronté à de graves défis en matière de sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui, les ministres ont décidé de poursuivre la mission Resolute Support au-delà de 2016. Nos autorités militaires vont maintenant aborder le détail de la mission au-delà de 2016, y compris dans les différentes régions du pays. Et nous avons également examiné le dossier du soutien financier pour les forces de sécurité afghanes. Le total des contributions au fonds d'affectation spéciale pour l'armée nationale afghane dépasse désormais les 1,4 milliards de dollars américains. Je me félicite donc de ces engagements financiers faits dès aujourd'hui par un grand nombre d'alliés et de partenaires. Et je suis convaincu que nous allons pouvoir annoncer lors du sommet de Varsovie des engagements fermes pour continuer à financer les forces afghanes jusqu'en 2020. Ceci est essentiel pour établir la capacité de l'Afghanistan à mettre sur pied des forces de sécurité durables et assurer la sécurité durable du pays. Les ministres ont également réaffirmé notre ambition à long terme de nouer un partenariat politique solide et une coopération pratique avec l'Afghanistan. Je pense donc que nos chefs d'État et de gouvernement vont réitérer cet engagement au plus haut niveau à Varsovie. Le ministre des Affaires étrangères, M. Rabbani, a exprimé toute l'appréciation de l'Afghanistan pour notre soutien et il a informé les ministres des réformes poursuivies par le gouvernement. Celles-ci comprennent notamment des initiatives visant à lutter contre la corruption, à protéger les droits de l'homme, y compris les droits des femmes, et à faire avancer le processus de paix. Les alliés et les partenaires de l'OTAN travaillent côte à côte avec l'Afghanistan depuis plus d'une décennie maintenant. Ensemble, nous avons rendu nos pays plus sûrs et l'Afghanistan également un pays plus sûr. Et comme les ministres l'ont clairement indiqué aujourd'hui, nous allons continuer à accorder un soutien politique, militaire et financier à l'Afghanistan. Voilà, sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions. Prendra donc au premier rang d'abord notre collègue afghan. Je viens donc de l'Afghanistan. Hier, vous avez évoqué l'importance de solutions politiques pour la paix en Afghanistan. Et vous savez que le président Ghani s'est déplacé plusieurs fois au Pakistan pour commencer des pourparlers avec les Pakistanais concernant ce conflit. Nous avons donc un engagement autour donc de ce groupe quadrilatéral avec l'Afghanistan, le Pakistan, la Chine et les États-Unis pour trouver la paix. Quel est le rôle du Pakistan et qu'est-ce que l'OTAN peut faire pour exercer une pression sur le Pakistan pour qu'il s'engage davantage dans le processus de paix en Afghanistan? Eh bien, nous avons toujours souligné le fait qu'il ne peut y avoir qu'une solution politique au conflit en Afghanistan. Donc, on se félicite de tous les efforts visant à trouver cette solution politique, y compris l'ouverture qu'a démontré donc le gouvernement afghan vers d'autres pays de la région. Et bien entendu, ses contacts avec le Pakistan. Je salue tous les efforts consentis pour que l'Afghanistan puisse travailler étroitement avec ses voisins, dont le Pakistan. Et je pense que le Pakistan a un rôle à jouer, peut apporter une contribution au processus politique qui a pour but donc de trouver cette solution politique. L'OTAN a exprimé tout son soutien aux efforts visant à trouver une solution politique, y compris donc cet engagement avec le Pakistan. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de la réunion d'hier soir consacrée à la Russie? Est-ce que vous avez d'autres engagements des pays qui se proposent comme pays cadre pour les bataillons à l'Est? Et est-ce que votre annonce d'une demande de conseil autant Russie, bon, pensez qu'il est important de parler avec la Russie des intentions de l'OTAN à l'Est? Alors, une des raisons pour lesquelles nous avons fait passer ce message de défense de pair avec le dialogue, c'est que surtout lorsque les tensions sont vives, comme c'est le cas actuellement, il est important d'avoir une certaine transparence et une prévisibilité. Et si nous pensons qu'il est utile de convoquer le Conseil OTAN Russie, c'est parce que nous pouvons utiliser ce Conseil pour justement véhiculer une certaine transparence par rapport à ce que l'on est en train de faire et de demander, bien entendu, à la Russie de faire de même envers nous, donc sur base de réciprocité. Et donc, il y a une quinzaine de jours, lors de la dernière réunion qu'on a eue, un des points à l'ordre du jour était justement la question des activités militaires, la transparence et la réduction de risques, avec une augmentation de la présence et des activités militaires, ce besoin de prévisibilité et de transparence ne fait qu'augmenter. Nous examinons maintenant la possibilité de convoquer une nouvelle réunion du Conseil OTAN Russie, un large accord entre parmi les alliés, donc de demander une nouvelle réunion, mais bien entendu, il faudra d'abord consulter la Russie, convenir d'un ordre du jour, mais parmi les alliés de l'OTAN, il y a clairement un soutien par rapport donc à cette idée d'organiser une nouvelle réunion. Mais en même temps, bien entendu, il faudrait pouvoir consulter la Russie avant de pouvoir tenir cette réunion, convenir des modalités de l'ordre du jour. En ce qui concerne les annonces faites des pays qui se proposeraient comme pays cadres, je ne peux pas vous en dire plus. Nous travaillons sur la question de la présence avancée. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a reçu un avis de nos commandants stratégiques, des gens chargés de la planification militaire, qui nous recommandent donc une présence de la taille d'un bataillon dans les pays alliés à l'Est. Et nous sommes en train d'étudier ces propositions qui seront débattues également lors de la ministérielle défense avant de prendre des décisions lors du sommet. Petite question sur le Conseil OTAN Russie. Pourriez-vous nous dire quelles sont les questions qui doivent être débattues lors d'une telle réunion? Eh bien, tout d'abord, il me semble important de dire que nous en avons parlé hier lors d'une réunion informelle. Il y avait un large consensus qui s'est dégagé à la fois sur le message fondamental que nous voulons passer, donc qui passe par la défense, la dissuasion et le dialogue, les deux choses allant de pair, et le besoin de renforcer notre présence avancée dans la partie est de notre alliance, et donc d'adapter notre posture militaire en conséquence. Mais on est également tombé d'accord au sein de l'OTAN pour chercher à convoquer une nouvelle réunion du Conseil OTAN en Russie, car il nous semble important de maintenir les canaux de dialogue politique ouverts, surtout dans des périodes comme la période actuelle. Pour nous, il a toujours été important d'aborder la question de l'Ukraine, mais pour ce qui est des autres points à l'ordre du jour, je crois qu'il faut maintenant passer aux consultations avec la Russie et donc décider, convenir des modalités de cette réunion et le timing. Je dois dire que nous n'avons jamais suspendu le Conseil OTAN Russie. Ce qui était suspendu, c'était notre coopération pratique plutôt. On a donc eu donc cette réunion il y a quelques semaines, à l'issue de laquelle j'ai dit que je pensais qu'il serait intéressant de tenir d'autres réunions, et une autre donc pourra être tenue avant notre sommet de Varsovie en juillet. Mais ceci en consultation avec la Russie. Nouvelle question. L'autre jour, Douglas Luth a parlé d'une histoire inachevée et en témoignant devant le Sénat, le général Campbell a dit que les forces de sécurité afghanes n'avaient pas encore la puissance de combat nécessaire pour protéger toutes les parties du pays. Ils se sont retirés d'un certain nombre de provinces cette année et les combats font rage aujourd'hui dans le pays et les talibans ont fait des avancées. Le pays manque encore de ministres de la Défense. Donc, quand est-ce que les choses vont s'achever? Est-ce que l'OTAN va continuer à jouer un rôle? On n'avait jamais dit que ce serait facile en Afghanistan. Lorsque nous avons mis fin à notre mission de combat à la fin 2014 et que nous avons passé entière responsabilité pour la sécurité en Afghanistan aux forces nationales, nous avions souligné à l'époque l'ampleur de la tâche. On savait que les choses ne seraient pas faciles. Nous avons écouté attentivement nos commandants militaires lorsqu'ils nous ont parlé du détail des opérations et des défis militaires qui existent encore en Afghanistan. C'était dans la réunion qui vient de se terminer. Mais en même temps, nos commandants militaires nous ont également parlé de la détermination, du courage et du professionnalisme des forces de sécurité et de défense afghanes. Nous avons là 350 000 soldats et policiers qui ont su prendre la responsabilité pour la sécurité dans leur pays et ont montré leur capacité à reprendre la ville de Kunduz en 3 semaines et de tenir ces terrains et de se montrer tout à fait professionnels. Mais ils ont besoin encore d'aide. Il reste du chemin à parcourir et c'est justement pour cela que l'OTAN s'est engagé à continuer son soutien à l'Afghanistan. Donc nous avons décidé aujourd'hui de maintenir la mission Resolute Support au-delà de l'année 2016. Des forces de l'OTAN seront donc présentes avec nos partenaires pour aider, conseiller et former l'armée afghane au-delà de cette année 2016. Nous sommes en train de mobiliser les fonds nécessaires pour soutenir ces forces afghanes financièrement et nous allons également poursuivre notre coopération pratique et politique avec ce pays. Donc on reste engagé, notre soutien est assuré justement parce que la tâche n'est pas facile, mais ils se sont montrés en même temps tout à fait capables, courageux et professionnels.
Merci, Jonathan Marks de la BBC. Monsieur le secrétaire général, j'ai une question sur le déploiement vers l'Est. On a beaucoup mis l'accent sur la présence avancée dans l'Est. Bon, il y a tout un ensemble d'exercices, etc., qui ont été mis sur pied pour rassurer les alliés qui sont inquiets des mesures, des actions de la Russie. Pourquoi est-ce que l'OTAN hésite tant à dire, écoutez, les Russes ont enfreint les accords qu'on avait conclus et donc maintenant nous allons stationner des troupes de façon permanente. Le gouvernement polonais, par exemple, aimerait bien qu'il y ait des bases permanentes en Europe orientale. Pourquoi est-ce que l'OTAN est si réticente à, Ah, bon, maintenant, bon, y a des rotations, on termine un exercice, on commence un autre, et donc les troupes ne sont pas stationnées de façon permanente. Pourquoi vous n'envoyez pas un message clair pour, en disant, oui, nous allons déployer un nombre limité de troupes en présence avancée, parce que la situation sécuritaire a changé. Oui, nous envoyons un tel message. Nous disons que nous allons avoir des troupes dans la partie orientale de l'Alliance. Nous allons augmenter la présence avancée avec donc en déployant des troupes dans la partie orientale, dans les pays orientaux de l'Alliance. Mais nous sommes en train de décider des détails, de déterminer les détails, l'ampleur, la composition et où exactement, l'emplacement exact de ces troupes. Donc, nous avons déjà envoyé donc un message très clair sur la présence avancée des forces de l'OTAN, des forces multinationales. Et je vous ai dit également que ce qu'on recherchait maintenant, c'est, bon, on cherchait à obtenir des conseils de nos commandants militaires sur... parce que ce sera, par exemple, des forces de la taille d'un bataillon dans les différents pays membres de l'OTAN dans l'Est. Mais bon, la composition exacte, l'emplacement exact, bon, ça, ce sont des questions que nous examinons actuellement et nous ferons les annonces lorsque nous aurons pris les décisions au sommet de Varsovie dans quelques semaines. Donc, oui, nous envoyons un message clair et également, nous signalons que le fait que la présence est internationale, multinationale, ça montre bien que une attaque contre un allié est une attaque contre tous les alliés. Et en même temps, nous envoyons le signal que l'OTAN ne cherche pas la confrontation, nous ne voulons pas une nouvelle guerre froide et nous nous efforçons toujours d'avoir une relation constructive avec la Russie. C'est pour cela que nous gardons les canaux de communication ouverts et nous nous efforçons également de faire en sorte que tout ce que nous faisons soit considéré comme étant défensif et c'est tout à fait conforme à nos engagements internationaux. Et donc, c'est toujours important de trouver le juste milieu entre la présence avancée et la disposition à apporter des renforts. Donc, il faut toujours réaliser un équilibre entre cela, la dissuasion, la défense et le dialogue. Et donc, l'OTAN a trouvé ce juste milieu, mais nous en sommes maintenant à élaborer les détails. Le Financial Times? Oui, je me demandais, pour réaliser cet équilibre, c'est à l'avantage de qui? Parce que beaucoup de personnes ont parlé bon, de la mauvaise interprétation par la Russie du déploiement des forces dans la Baltique, par exemple, les forces de l'OTAN. Vous dites que, bon, beaucoup de gens disent bon, que c'est une expansion de l'OTAN, ça équivaut à un acte d'agression. Est-ce que le Conseil OTAN-Russie, ces réunions du Conseil OTAN-Russie et les autres mesures visent à est-ce que c'est simplement parce que c'est simplement pour rassurer à l'interne les alliés plutôt que dans le cadre d'un dialogue à l'externe. Oui, eh bien, ça fait partie de ce qu'on a toujours dit qu'on ferait. On a toujours dit qu'on allait renforcer notre défense collective en Europe et nous avons mis en œuvre avec le plan d'action réactivité. Nous avons triplé la taille de la force de réaction rapide de l'OTAN et maintenant, nous allons augmenter notre présence avancée dans la partie orientale de l'Alliance. Mais nous avons également dit clairement que nous allions continuer à établir une relation plus constructive avec la Russie et garder les voies de communication ouvertes. Comme je l'ai dit, une des raisons pour lesquelles c'est important, c'est qu'il faut éviter ce genre de malentendus et de mauvaises interprétations et d'erreurs de calcul. Alors, une des raisons pour lesquelles nous gardons le dialogue avec la Russie, c'est pour pouvoir leur dire voici ce que nous faisons et donc d'être transparent et pour éviter donc des malentendus. Et donc, avec l'accroissement de la présence militaire le long des frontières, il y a toujours un risque plus élevé d'incidents aux frontières. Par exemple, il y a eu un avion russe qui a été abattu près de la Turquie et également des avions russes qui ont survolé qui ont survolé des bâtiments américains en Baltique, en mer Baltique récemment. Et donc, pour moi, ça montre bien qu'il est important de faire preuve de transparence, de prévisibilité et de garder les voies de communication militaire ouvertes pour éviter ce genre d'incidents et d'accidents. Et si ces incidents se produisent, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'escalade. Donc, voilà, il s'agit simplement de faire ce que nous avions dit que nous allions faire, c'est-à-dire utiliser la défense et le dialogue pour essayer de réduire les tensions et de faire de la désescalade et tenter d'éviter la confrontation et tenter d'éviter une nouvelle guerre froide. C'est, évidemment, ça représente un défi très important, mais l'OTAN a l'habitude de ces défis importants et par conséquent, nous... C'est pour cela que nous avons adapté l'OTAN depuis la fin de la guerre froide par l'entremise des décisions que nous avons prises au cours des dernières années. Oui, j'ai deux questions, encore une fois, au sujet de la Russie. Aujourd'hui, vous avez dit que l'OTAN et l'Union européenne avaient adopté une réponse commune concernant l'Ukraine. Pourriez-vous donner plus de détails une deuxième question. Vous avez évoqué à de nombreuses reprises une approche envers la Russie en matière de dialogue, mais cette attitude n'est pas bien comprise à Moscou. Après l'accession du Monténégro, et bon, les exercices qui auront lieu évidemment à l'avenir, dans un avenir approché, qu'est-ce qui pourrait bien montrer à la Russie que vous êtes toujours ouvert au dialogue? Oui, je n'ai pas bien compris votre première question sur l'Ukraine. La coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, une réponse, une réaction commune. Oui, mon message, c'est que, évidemment, l'Union européenne et l'OTAN, bon, c'est deux organisations différentes qui ont des capacités différentes, qui travaillent à une échelle différente. Elles ont des institutions différentes, évidemment. Donc, mais ce sont des institutions complémentaires. Nous travaillons étroitement ensemble. Et on l'a vu pour ce qui est de la réaction face à l'annexion illégale de la Crimée par la Russie et les politiques de la Russie concernant la déstabilisation de la partie orientale de l'Ukraine. Parce que l'Union européenne a mis en œuvre des sanctions économiques, alors que l'OTAN a mis en œuvre son plan d'action réactivité ou augmenter ces mesures de dissuasion et de défense dans le cadre de l'adaptation militaire depuis 2014. Donc, voilà, d'une certaine façon, ça montre bien que l'Union européenne applique des sanctions économiques et l'OTAN applique des sanctions militaires en matière de dissuasion et de défense. Donc, ensemble, ça montre bien que ça envoie un message très fort. Je crois fermement que Moscou comprend bien que, à long terme, Moscou bénéficiera plus d'une coopération avec l'Union européenne et avec l'OTAN plutôt que d'une confrontation avec l'OTAN et l'Union européenne. Il est clair que ce que nous faisons, c'est en réaction aux mesures prises par la Russie en Ukraine. Avant cette crise, nous n'avions pas de présence avancée dans la partie orientale de l'Alliance, comme nous prévoyons le faire maintenant. Les mesures d'assurance, l'augmentation de la présence militaire, ça a été fait après l'annexion de la Crimée. Et j'utilise souvent l'exemple de mon propre pays, la Norvège. Pendant des décennies, la Norvège avait de très bonnes relations avec la Russie. Nous coopérions en matière d'énergie, en matière de pêche, sur la démarcation des frontières. Nous avions des activités militaires également dans le Nord. Et nous le faisions non pas malgré le fait que nous étions membres de l'OTAN, mais parce que ça nous donnait ce fondement, cette capacité de pouvoir participer, nous associer à la Russie également. Si nous avons des relations plus constructives avec la Russie, ça bénéficiera à la fois à la Russie et à l'OTAN. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour d'autres questions parce que le secrétaire général doit participer à une autre réunion. Donc, merci. Merci à tous.